Maurice.
Haute fréquence.
Le son des religions.
La journée mondiale contre la peine de mort s'est déroulée le jeudi 10 octobre. Et en écho à cette journée, eh bien, ce soir on vous propose un reportage d'un genre un peu particulier. On va s'arrêter un instant sur une rencontre qui a eu lieu cet été. Cette rencontre, c'est celle d'Alonzo et Fabien. Alonzo est afro-américain, il vit dans une prison de l'Alabama, dans le couloir de la mort, depuis maintenant presque 25 ans. Fabien, lui, Fabien, vous le connaissez un peu, hein. Il est journaliste ici, c'est une voix de RTS Religion. Mais le Fabien de ce soir, c'est un peu plus que ça. C'est le correspondant, le pen friend, comme on dit en anglais, d'Alonzo. Ça fait 20 ans que ça dure entre eux, hein. 20 ans qu'ils échangent des courriers, 20 ans qu'ils grattent du papier, 20 ans qu'ils se racontent l'un et l'autre, l'un à l'autre. Et cet été, pour la deuxième fois depuis le début de leur relation, le journaliste et le condamné à mort se sont retrouvés, l'un face à l'autre, dans le parloir de la prison d'Atmore, en Alabama. Ils se sont parlé de vive voix, ils se sont même touchés, ils ont passé ensemble plusieurs heures, ils ont parlé de tout, ils ont parlé de rien. Et puis voilà, Fabien, eh bien, il est reparti. Mais notre Fabien, il est journaliste, et un journaliste, ça raconte. Alors bien sûr, il n'avait pas le droit d'embarquer un micro au parloir, ça c'est formellement interdit, mais Fabien a enregistré son journal de bord. Voici donc l'histoire de la rencontre de Fabien et Alonzo.
Nous sommes vendredi 14 juin, je suis à Atmore, qui est au sud de l'Alabama, dans la région de Mobile. C'est là que Alonzo Burgess, mon correspondant, est enfermé dans le couloir de la mort depuis maintenant 24 ans. Donc je vais aller lui rendre visite ce matin. J'avoue que j'ai pas passé une excellente nuit parce que j'avais évidemment très très peur après avoir fait 7500 km de rester endormi. Donc j'ai eu une nuit un petit peu hachée, d'autant que hier soir j'ai pris un peu de temps pour relire ses dernières lettres et puis aussi relire le compte-rendu que j'avais fait il y a 12 ans quand je suis venu le voir en 2007, de ce que j'avais vécu, des moments. Ça m'a remis en tête une série de choses en fait que j'imagine je vais vivre aujourd'hui avec lui. Mon petit stress nocturne, c'était aussi de ne rien oublier ce matin. J'ai dû pacter ma valise assez tôt pour être sûr de ne pas oublier mon passeport, le billet d'avion, parce qu'il faut savoir qu'il souhaitait avoir la preuve que je venais de voir de Suisse, ce qui lui a permis d'avoir une visite étendue. Au lieu de venir à 11h30, je peux déjà venir à 9h, je pourrais rester jusqu'à 16h, donc ça c'est comme un privilège. Et puis je dois aussi amener toute une série de pièces de 25 cents. Alors je me suis procuré des rouleaux de pièces de 25 cents pour $40 pour les machines distributrices. En fait, lui n'a pas le droit de sortir de la salle, on se verra, mais moi je peux, et il y a des distributeurs de nourriture, on va pouvoir manger ensemble, boire ensemble, voilà. Donc j'ai pacté tout ça, vous excuserez d'être un petit peu le désordre, voilà. Je vérifie que dans mon sac que tout y est, c'est l'occasion, dernier contrôle. Alors les papiers sont là, justement ces fameux rouleaux, ils sont là, et puis voilà. Mon sac à dos, comme ça, que je devrais laisser évidemment sur le parking. Le temps est en train de passer, je vais devoir y aller. Voilà ce que j'avais envie de me raconter, de vous raconter avant d'y aller.
Fabien, je m'invite un instant avec vous à Atmore dans la voiture. C'est vous qui allez nous emmener maintenant à la rencontre d'Alonzo. Fabien, vous écrivez depuis très longtemps avec Alonzo.
Alors on a commencé à s'écrire au début des années 2000. Et c'est un précédent condamné à mort qui s'appelle Pernell Lasha Ford qui nous a mis en contact. Pernell en fait a remis toute sa correspondance à Alonzo avant qu'il ne soit exécuté. Et c'est à ce moment-là que Alonzo nous a écrit et nous a demandé si on voulait continuer une correspondance avec lui.
Ok, et donc Alonzo, il est condamné à mort. Pourquoi ?
parce qu'il a tué sa copine de l'époque, Sheila, un homicide qu'il a reconnu, mais la justice américaine l'a également reconnu coupable d'avoir tué les enfants de Sheila, ce qu'il nie. Alors dans un premier temps, le jury l'avait condamné à la prison à vie, en tenant compte de circonstances atténuantes, mais c'est la juge qui a décidé de renforcer cette sentence en décidant qu'il aurait la peine de mort.
Ok, Fabien, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme vous à entretenir une relation épistolaire ou une relation d'amitié avec un condamné à mort de l'autre côté de l'Atlantique?
Ben d'abord parce que le couloir de la mort, c'est un lieu de solitude extrême. Sa situation, elle me touche beaucoup de le savoir dans cette solitude et dans ce quotidien vraiment très difficile. Bien sûr, ce qu'il a fait, ben ça mérite un châtiment, ça c'est clair. Personnellement, je suis très opposé à la peine de mort. Je pense qu'aucun être humain ne mérite de mourir quoi qu'il ait fait, même s'il a fait quelque chose de très grave. Alors si, en lui écrivant, en correspondant avec lui, en étant en relation avec lui, ben, je peux alléger un petit peu ce quotidien, ça me rend heureux. Voilà, c'est bête de le dire comme ça, mais c'est ainsi. Je suis pas le seul d'ailleurs. Mon épouse aussi lui écrit. On écrit parfois à quatre mains. Ma belle-mère aussi lui écrit. Puis j'ai aussi un ami très proche qui prend la plume et qui lui écrit régulièrement.
Ouais, votre belle-mère, elle lui écrit et elle lui chante aussi, hein, c'est ça. On entendra ça plus tard. Bon, on va vous laisser poursuivre sur les routes de l'Alabama.
Voilà, ben je suis sur la route qui m'emmène vers Alonzo. J'arrive dans un secteur qui est celui des colonies pénitentiaires. J'ai quand même un peu la boule au ventre, je dois dire. Je vois ici, Correctional Facility. Voilà, une petite guérite, une barrière. Allons-y. Ça devrait être au bout de ce chemin. Restricted Area. C'est là que j'ai rendez-vous avec lui à 9h, dans un quart d'heure. Je pense que c'est ça le parking visiteur. Voilà, je suppose.
Je crois qu'on est arrivé. Dis donc, il ressemble à quoi ce Holman Correctional Facility d'Atmore? Donc c'est la prison d'Atmore où réside depuis maintenant 25 ans Alonzo.
Alors il faut vous imaginer une grande clairière où sont posés plusieurs bâtiments. Tout autour, c'est grillagé bien sûr. La première chose qu'on voit quand on quitte sa voiture, quand on sort du parking, c'est le mirador qui est planté devant la clôture. Alors un garde, quand je suis arrivé, s'est immédiatement rendu à la fenêtre, au balcon si on veut bien. Il avait vraiment le fusil sur le torse. Il m'a regardé, il m'a demandé pourquoi j'étais là. Alors j'ai brandi tout de suite mon passeport suisse pour lui montrer voilà que je venais voir quelqu'un. J'ai expliqué que c'était pour une visite. Alors il m'a désigné une porte dans la grille. Et vous passez à ce moment-là un sas, une sorte de sas entre les grilles. J'étais accompagné de plusieurs personnes qui ont transité à ce moment-là. On était une dizaine à peu près à se retrouver devant le bâtiment. Il y avait une sorte de petit chemin qui nous a conduit jusqu'à une porte. Vous entrez dans le bâtiment et là, c'est le détecteur de métal. Donc, vous passez par un portique. On vous rappelle à ce moment-là, bien sûr, qu'il n'est pas question d'amener des billets de banque. Seulement de la petite monnaie, des quarts de dollars. Pas de téléphone portable non plus. J'ai donc tout dû laisser dans la voiture. J'avais presque rien avec moi. Et puis une fois que vous avez franchi ce portique, à ce moment-là, on vous fait entrer dans une sorte de grande salle vitrée. Il y a plusieurs rangées de tables qui sont posées là. Il y a sur le bord de cette salle plusieurs distributeurs automatiques de boissons, de friandises. Puis c'est là que vous attendez, vous asseyez à une des tables, en attendant qu'arrive la personne que vous venez visiter. Il y a des grands ventilateurs au plafond qui brassent l'air, ils sont assez bruyants. Et puis, à un moment donné, bien sûr, le condamné arrive, descend le petit escalier avec le gardien qui le libère à ce moment-là. Et vous vous asseyez, non sans avoir fait un hug à l'américaine.
Un hug à Alonzo. Alors, vous l'avez rencontré longuement, plusieurs heures, mais on va l'entendre, vous l'avez aussi interviewé. Alors, comment on fait pour interviewer un condamné à mort quand on n'a pas son micro et quand on a rien sur soi?
Bonne question. C'est vrai que j'avais envie de faire connaître son quotidien, j'avais envie de faire connaître la difficulté concrète de sa vie, ses espoirs aussi. Alors, effectivement, on peut pas enregistrer d'interview avec un condamné à mort. En Alabama, c'est interdit. J'ai opté pour une reconstitution de l'interview que vous allez entendre. Pour les besoins de cette émission, la conversation a été reconstituée. Merci à Antoine Drou et Yves Créta qui se sont prêtés à l'exercice. Nota bene, avant que vous entendiez cette reconstitution, dans la version française, il fallait traduire le « you » anglais. Alors, vous, tu, finalement, j'ai choisi le « vous ».
Ouais, c'est parce que vous êtes journaliste.
Alonso, elle est comment cette vie dans le couloir de la mort?
La vie dans le couloir de la mort? Bien, vous êtes enfermé, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ce n'est pas facile. Vous devez gérer la pression psychologique liée à ce temps immense que vous passez enfermé dans une cellule. Dans une journée normale, je me lève vers 6h, 6h30. Je me lève, je me fais une tasse de café, je m'assieds à table, je mets de l'ordre dans mes idées et je me prépare à la journée. Et puis, assis à table, je lis, j'écris. À 9h45, ils font l'appel et après ça, je n'ai pas grand-chose à faire. Je lis, je me mets sur mon lit pour regarder la TV. À la fin de la journée, la seule chose que j'attends, c'est de voir si je reçois une lettre. C'est difficile de dormir dans cet environnement. En tout cas, pour moi, je ne dors pas plus de 2 heures d'affilée si je dors. Et je reste facilement 18 à 19 heures debout avant d'aller au lit. C'est ce stress psychologique qui m'empêche de bien dormir.
Durant la semaine, vous avez des activités régulières ?
Durant la semaine, nous avons un service religieux le mardi, un autre le jeudi et encore un le dimanche. Ça dure de 2 à 3 heures et les détenus du couloir de la mort ont le droit d'y participer.
Et vous faites du sport ?
Nous sortons dans la cour, ou plutôt nous sommes supposés sortir dans la cour chaque jour, pendant 1 heure. Nous pouvons y jouer au basket, au volleyball ou soulever des poids.
Et quelles sont vos relations avec les gardiens ?
C'est probablement un genre de relation que vous ne trouvez pas dans d'autres prisons. Entre les gardes et les détenus, et beaucoup de gens seraient surpris par cet environnement. Mais attention, c'est très différent dans les autres secteurs de la prison. Ceux pour les détenus ordinaires et ceux qui sont à l'isolement. Les gardiens ne sont pas du tout aussi à l'aise avec ces détenus qu'ils le sont avec les condamnés à mort. Parce que les condamnés à mort ont beaucoup plus de respect.
Justement, avec les autres détenus, comment ça se passe ?
Il n'y a pas beaucoup de violence dans le couloir de la mort, mais il y a quand même des moments où ça chauffe par ici. Mais en général, les gars gèrent la situation et ne la laissent pas arriver au point où ça pourrait sortir d'ici. Par exemple, si 2 gars se mettent à se battre, ça dure 2-3 minutes avant que les autres détenus interviennent. Ou alors, c'est les gardiens qui arrivent et qui interviennent. Mais pour ce qui concerne les relations des uns avec les autres, le couloir de la mort est comme une grande communauté.
Diriez-vous que vous avez des amis là-bas ?
Ah non, 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 non. D'abord parce que vous ne pouvez faire confiance à personne ici. Et c'est mieux de ne faire confiance à personne. Pas ici, pas dans le couloir de la mort. Vous voyez, dans le couloir de la mort, c'est comme ça. Chacun a reçu une condamnation à mort. Mais chacun veut vivre. Or, ce n'est pas comme ça que le système a été conçu. Vous savez, cet endroit a été conçu pour vous garder en prison pour le reste de votre vie. Maintenant, en traversant cette épreuve du couloir de la mort, certains vont s'en sortir. D'autres ne vont pas s'en sortir. Certains vont trouver du travail. D'autres vont basculer du côté obscur. D'autres encore vont abandonner parce que c'est trop pour eux. Si vous voulez réussir ce voyage, vous devez rester fort, mentalement, physiquement et spirituellement.
Vous avez de l'espoir ?
Eh bien, je pensais que cette année serait une grande année où je pourrais retourner devant un tribunal. Ça a un impact sur mon mental, parce que quand je me prépare mentalement à retourner devant un tribunal et que j'attends une date, c'est comme si ça gelait mon esprit et me plongeait dans un état dépressif. Vous savez, j'ai attendu toutes ces années. Je suis prêt à y aller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je ne verrai jamais ça parce qu'il repousse cette date. Mais je n'ai pas abandonné. Je pourrais remettre les pieds sur un sol stable et reprendre contact avec le monde extérieur. Mais ce que je traverse, c'est ce qu'ils appellent un état dépressif. Vous savez, la dépression fait désormais partie de mon style de vie, vu les circonstances. Et il y a plusieurs manières d'affronter cette dépression. Vous pouvez prendre des médicaments, ce que je ne recommande pas. Ou alors, vous pouvez vous mettre à genoux, remettre tous vos problèmes entre les mains d'un pouvoir plus haut que les êtres humains. Car les hommes vont vous égarer, mais Dieu ne vous égarera pas. Il va rester avec vous là où vous êtes, quelles que soient les épreuves que vous endurez. Et voilà mon combat. Et parfois, je deviens déprimé. J'essaie alors de m'en sortir et je dépose mes sentiments sur le papier dans mes lettres.
Hello Alonso, I know you will forgive me for all the mistakes, but I just try to make you some pleasure and I play a little bit guitar, but only just a little bit. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep.
Alonso, il semble que pour vous, les lettres que vous échangez avec l'extérieur de la prison sont très importantes. De recevoir, d'écrire.
Écrire des lettres, c'est un filin de sécurité. Sans ces lettres qui sortent et qui entrent, ce serait la dépression. Donc ces lettres, oui, elles sont très importantes. Ça permet d'avoir une connexion avec le monde extérieur par le biais des lettres.
En parlant de lettres, vous avez pas beaucoup de visites. Presque pas du tout.
C'est juste. Ça fait 27 ans que je suis dans le couloir de la mort et je crois que j'ai reçu 3 visites, dont 2 de vous. J'ai vu ma mère 6 ans après mon entrée dans le couloir de la mort. Sa santé était mauvaise et elle ne pouvait pas venir me voir. Et des gens ont donné un peu d'argent pour qu'elle puisse venir me voir. Mais ça a été la dernière fois. Elle est morte 6 mois après. Et la seule personne que j'ai vue depuis, eh bien c'est vous. C'est la seule visite que j'ai eue. Je n'ai plus de famille. Toute ma famille est morte. Et j'étais enfant unique.
Mais Alonso, comment résistez-vous après toutes ces années dans le couloir de la mort ?
Si vous n'avez aucun système pour vous soutenir, c'est difficile de tenir dans un endroit comme celui-ci. Parce que les seules personnes sur lesquelles vous pouvez compter, ce sont celles qui sont dans votre vie. Et pour ma part, je n'ai pas de famille. Je vous ai, vous. J'ai votre épouse. Voilà ma famille. C'est ainsi que je survis ici, financièrement, spirituellement. Survivre ici au quotidien, sans aucune forme d'assistance du dehors, ce serait probablement extrêmement difficile. Et pour un être humain, il y a encore d'autres choses dont il peut avoir besoin pour rester à flot dans son combat. Et sans un système d'aide, ce n'est tout simplement pas possible.
Avez-vous peur du scénario dans lequel le juge vous enverrait parmi les droits communs ?
Vous voulez dire que je ne m'en sortirai pas dans le secteur des détenus ordinaires ?
Oui.
J'aimerais, si je retourne au tribunal, qu'il réduise ma peine. Que ce soit pour une peine de réclusion à perpétuité sans libération ou pour me donner une peine plus réduite. Dans ce dernier cas, j'aurais certainement accompli toute ma peine et je pourrais sortir d'ici. Mais ils peuvent effectivement m'envoyer chez les détenus de droit commun avec une peine de prison sans libération possible.
Ce serait dangereux pour vous ?
C'est très dangereux dans ce secteur car les portes sont ouvertes. Alors qu'ici, dans le couloir de la mort, chacun est logé dans une cellule séparée. Il n'y a qu'un homme par cellule et il y est enfermé 24 heures par jour. Et aller dans ce secteur des droits communs, c'est comme recevoir une nouvelle sentence de mort pour quelqu'un qui quitte le couloir de la mort. Prenez un homme qui a dans les 50-60 ans, sortez-le du couloir de la mort et placez-le dans cette jungle. Un homme qui est resté dans le couloir de la mort près de la moitié de sa vie, eh bien, il ne saura probablement pas s'en sortir parmi les droits communs. Parce qu'il n'a pas l'habitude de se trouver dans ce type de groupe humain. Vous savez, ces gars qui passent leur temps à bouger dans tous les sens. Il n'a pas été formaté pour ça. Pensez que dans le couloir de la mort, il y a eu une attaque au poignard il y a quelques nuits. Il y a un gars qui a presque perdu 2 doigts en essayant d'attraper le couteau. Et le gars a continué à le poignarder dans le bras. Et ça aurait pu lui coûter la main entière.
Et la situation est pire chez les détenus ordinaires ? C'est si dangereux ?
Oui, très dangereux.
Voilà, c'était l'entretien entre Fabien et Alonso, un entretien mis en voix par Yves Creta et Antoine Drou. Bon, ensuite Fabien reprend la route et retourne à son hôtel. Je l'ai appelé le soir même pour avoir un écho direct de cette rencontre avec Alonso. Alors, dispositif un peu compliqué, on s'est donc parlé au téléphone et chacun s'est enregistré de son côté avec un micro.
Là, je suis de retour à l'hôtel et j'ai aligné sur le lit les choses avec lesquelles je suis revenu. Les quelques pièces de quart de dollar que j'ai dû prendre pour les machines distributrices. Il m'en reste encore quelques-uns de ces quarters. Et puis j'ai la photo, où on est les deux, bras dessous, photographiés par un gardien. On voit que je fais en tout cas une demi-tête de plus que lui. Il est plutôt un peu râblé, costaud. Et puis j'ai aussi sur le lit, en fait, trois petits objets d'artisanat qu'il a fabriqués. Il y en a un, par exemple, qu'il a fait à partir d'un morceau de calendrier en bois qui représente le château de Chillon, en balsa ou quelque chose de ce type-là. Et il en a fait un cœur, enfin un double cœur articulé avec une charnière. Et au centre, il y a un espace qui est peint, ou verni plus exactement, rouge, dans lequel on peut mettre évidemment des petites photographies personnelles, des photos de famille. Deuxième ressemble aussi, un peu plus simple. Et puis le troisième, alors ça c'est une sorte de support avec deux petits cœurs, je dirais de 2 cm de haut, c'est plus petit, derrière une sorte de bouquet fleuri. Il m'a dit que c'était des morceaux de balai qu'il a coupé et il a transformé ça en une sorte de, qu'est-ce qu'on va dire, de fleurs comme ça. Et sur les cœurs derrière, en rouge, c'est marqué Fabien sur l'un et Anne-Catherine sur l'autre.
Fabien, c'est là le deuxième voyage à Atmore pour aller rencontrer Alonso, en chair et en os. On est dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui a changé, en fait, par rapport à la première rencontre?
Alors, je dirais physiquement, nettement moins d'appréhension. Dans le sens que la première fois, on se dit « Waouh, est-ce qu'on va être un peu rudoyé? Est-ce qu'on va devoir se justifier? À quoi ressemble l'intérieur de la prison, le parloir, etc. Est-ce que le moindre pas de travers va provoquer une avalanche de sanctions ou une réaction, etc. ?» Donc ça, il n'y avait pas, clairement. J'avais alors par contre souci de pas me tromper sur les pièces de monnaie, puisque ça m'avait beaucoup posé de problèmes à la première visite. On avait dû mendier auprès des autres familles de condamnés pour qu'ils acceptent de nous donner des quarters pour qu'on puisse se nourrir. Tout petit détail, mais c'est vrai que ça assure un peu la fluidité de la journée. Comme ça, on boit, on mange, on boit, on mange, puis on devise. C'était important pour moi de pas oublier ça, quoi.
Bon, puis alors, vous avez parlé de quoi pendant 6 heures?
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 3 dernières lettres pour vraiment avoir en tête ce qui est son quotidien, ce qui le préoccupe, les thèmes dont on a parlé. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui reviennent au long cours, d'autres qui disparaissent. Mais j'avais en tête un certain nombre de choses très importantes dont il n'avait plus parlé dans les dernières lettres, qui étaient par exemple la relation avec son fils. Et on a reparlé de son fils puisqu'il a eu 7 semaines, de manière totalement inattendue, des nouvelles de son fils. C'était très important pour lui de m'en parler. J'ai quand même relu par contre les notes que j'avais prises lors de ma première visite, pour me rafraîchir les idées.
Et pendant les 6 heures que dure cet entretien, j'imagine qu'on arrive à un certain degré d'intimité, mais ça doit quand même pas être très facile vu le contexte, non?
Alors le principe même, je dirais, c'est on saute pas mal du coq à l'âne, mais c'est vrai qu'on aborde aussi les thèmes qu'on aborde dans une lettre. Il y a des choses très juridiques, sur l'état par exemple de sa procédure, il attend des audiences, quelle est la stratégie, comment ça peut se développer au mieux pour lui. À part ça, on est revenu aussi sur des choses plus anciennes. Comme je suis son seul visiteur, il a eu aucun visiteur hormis ses avocats tous les 3 mois, c'était aussi une joie de me raconter son univers familial avec sa mère et sa grand-mère. Il a vécu dans un gynécée, comme ça. Son père, il l'a jamais connu. Et il vivait dans cet univers féminin où il était le chouchou, quoi. Et il avait le grand sourire, il me racontait des anecdotes. Matinée aussi de choses plus dures. Il a été témoin à l'âge de 8 ans d'une tentative d'assassinat. Il a dû témoigner au tribunal. La personne sur laquelle il a témoigné est allée 8 ans en prison et est revenue le trouver 8 ans après. Donc il y a un bout d'histoire de violence assez forte dans son existence. Donc c'est des choses qui apparaissent comme ça. Et puis là, à travers, tout d'un coup, on se met à parler des réfugiés en Méditerranée, la Syrie par exemple. Il m'a posé beaucoup de questions sur la Syrie. J'ai l'impression que, paradoxalement, il y a des moments où, par lettre, on a une plus grande intimité que ce qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, j'en prends mon parti, je me dis que le fait même qu'on se soit vu, voilà, est en soi un signe, quoi. On a mangé ensemble et c'est un privilège. Mais ce sera pas forcément, sur le plan de notre relation, un milestone. Mais c'est un signe important. Voilà, c'est un signe d'affection et peut-être plus pour moi que pour lui finalement. Ça me permet peut-être de comprendre un petit peu mieux quand il me dit certaines choses, à quelle réalité matérielle il fait allusion.
Ah ben justement, on peut parler un peu de cette réalité matérielle de son quotidien. C'est quoi la vie dans le couloir de la mort à Atmore au jour le jour? On peut le rappeler, hein, c'est une des prisons les bien moins loties des États-Unis.
Alors c'est reconnu, semble-t-il, au niveau des États-Unis que c'est une prison qui est vraiment en mauvais état. Je crois qu'elle a été construite dans les années 60. Ça, c'est d'autres qui connaissent mieux la réalité d'autres états, qui visitent des prisonniers ailleurs, qui me disaient que Atmore est connu pour être vraiment très dégradé, hein. Une des pires en termes de conditions matérielles des États-Unis, hein. Exemple, j'ai demandé à Alonso combien de fois il avait dû repeindre sa cellule parce que c'est tellement humide que ça cloque le long des murs. Il est depuis 18 ans dans sa cellule, il a dû la repeindre 6 fois. Sa cellule, c'est un espace de 9 pieds sur 5 pieds pour 9 pieds de haut. Alors 9 fois environ 30 cm, ça fait 2,70 m sur 1,50 m sur 2,70 m de hauteur.
Ouais, ok, je crois que j'ai compris. C'est un clapier à lapin, quoi.
Vraiment un clapier à lapin, c'est tout petit, hein. Et il y passe vraiment l'essentiel de son temps, hein. Donc matériellement c'est difficile, sans arrêt ils ont des floodings, enfin des inondations parce que les tuyaux fuient, c'est une bouilloire en été, une glacière en hiver. Enfin, il y a des avantages qui vont avec les désavantages, c'est-à-dire que c'est tellement usé que par exemple les systèmes de verrou fonctionnent mal. Donc avec un peu d'astuce, ils arrivent à maintenir leur cellule ouverte. Du genre, il y en a qui sortent nuitamment, il y a des coucheries, il y a des beuveries, il y a toutes sortes de choses. Quand c'est découvert, ben évidemment, ça fait un peu de foin, mais ils sont beaucoup en stabulation libre. Et puis, les gardiens savent bien que des gens condamnés à mort, qui n'ont pas grand-chose à perdre, faut peut-être leur lâcher la bride un peu plus qu'à d'autres. J'ajouterais quand même par rapport aux conditions de vie qu'il y a deux choses qui sont quand même très difficiles quand même à supporter au quotidien. C'est le fait que les horaires sont complètement déstructurés pour des raisons logistiques. Par exemple, tout d'un coup, il se retrouve à devoir manger son petit déjeuner à 2h du matin et avoir son souper à 4 ou 5 heures de l'après-midi. Pour des raisons organisationnelles, parce qu'il y a peu de monde pour les servir, il y a des choses très erratiques qui se produisent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir venir plus vite, à 9h au lieu de 11h normalement, mais à 3h30, les gardiens nous mettaient dehors, alors que normalement ça aurait dû être 4h. Donc je pense qu'en fonction des contraintes qu'ils ont, parce qu'ils sont en sous-effectif, il y a des aléas qui au quotidien sont très stressants. Lui me parle de fatigue, il me dit « je suis fatigué de tout ça ». Et ça revient dans chacune de ses dernières lettres, très fort. Puis la deuxième chose, qui est produite aussi par le sous-effectif des gardiens, c'est la violence. 14 morts violentes sur une année, sur une prison de quelques centaines d'individus, plus 13 suicides, c'est quand même énorme. Alonso me disait que, encore récemment, dans la cellule anti-suicide, il a découvert un type qui venait de se pendre et qu'il a pu décrocher au dernier moment. C'est dire aussi que le fait qu'il y ait très peu de gardiens et encore moins de structures pour traiter les personnes atteintes psychiquement, c'est vraiment extrêmement difficile. Et lui, qui est pourtant pas un infirmier en psychiatrie, me disait « mais c'est juste incroyable le nombre de gens qui vont mal dans leur tête mais qu'on n'arrive pas à soigner, quoi ».
Fabien, il y a combien de personnes dans ce couloir de la mort à Atmore ?
Alors, il y a 14 par rangée, donc il y a deux rangées, ça fait une petite trentaine de personnes.
Et Alonso, il vit là depuis combien de temps ?
25 ans. Voilà, et je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont dans son cadre, qui ont à peu près 25 ans de couloir de la mort, et il y en a une qui a 40 ans de couloir de la mort.
Fabien, comment ça se fait que ça dure aussi longtemps ?
C'est lié en bonne partie au système juridique américain qui prévoit de multiples procédures, de multiples possibilités d'appel à différents niveaux. Il y a une procédure directe et puis il y a une procédure indirecte qui simplement sert à vérifier que la procédure directe a été bien faite. Donc ça fait des différents méandres et on ajoute à ça encore les changements de la législation américaine, puisque sans arrêt la Cour suprême révise les normes juridiques en matière de peine de mort. Donc voilà, on est dans un imbroglio juridique extrême qui peut expliquer ces durées parfois en décennies. Le dernier arrêt d'Alonso que j'avais lu, il fait 170 pages. C'est beaucoup d'arguties juridiques.
Bon, parlons aussi de nourriture. Visiblement, le graal de la bouffe à Atmore, c'est ce fameux distributeur automatique où on peut s'approvisionner en sandwich industriel et en chocolat, c'est ça ?
Alors, effectivement, on a mangé des sandwichs, on va dire des sandwichs genre sandwich fast-food, qualité, on va dire, standard, rien à dire de spécial. Mais par comparaison, c'est dire le niveau de la nourriture qu'ils mangent au quotidien. C'est des trucs vraiment dégueulasses. Semble-t-il, il y a des problèmes de chaîne de congélation. Il me disait aussi que ce sont des détenus qui font à manger. Mais, alors ça, je ne savais pas, il me l'a appris. Les détenus qui sont à la cuisine ne mangent pas la nourriture faite par la cuisine. Ce qui fait qu'ils n'ont aucune motivation à faire la nourriture pour les autres, puisqu'ils la mangeront pas, de toute façon. Du coup, il leur arrive des choses parfois périmées, des choses mal cuites, tout ce qui est pâtisserie, c'est juste dégueulasse, et lui, parfois, renonce à manger, et s'alimente avec des paquets alimentaires qui commandent, ils ont des ordres qui peuvent passer, je crois, 2 ou 3 fois par année, ils commandent des paquets alimentaires, puis ils stockent, quoi. Puis quand c'est trop dégueulasse, ben, ils mangent sa propre nourriture.
Alors, on a bien compris, il peut acheter de la nourriture, ok, mais avec quel argent, Fabien? De quoi est-ce qu'il vit, Alonso?
Alors, au niveau de sa famille, depuis que sa mère et sa grand-mère sont décédées, plus personne n'est en contact avec lui. La seule personne qui a un vague contact, c'est son fils, qui vient de reprendre contact, mais lui-même, semble-t-il, est en prison. Donc, il n'a, du côté de sa famille, aucun soutien, zéro, pas d'argent. Donc, en fait, il vit du soutien que quelques correspondants dont je fais partie lui envoient, sous forme d'argent envoyé à une dame aux États-Unis qui transforme ça en une sorte de chèque avec lequel il peut commander, par exemple, de la nourriture. Il a trois correspondants en Suisse, enfin 4 si je compte mon épouse, je vais pas l'oublier quand même. Il a peut-être des gens ailleurs aux États-Unis, je sais pas. Il m'avait avoué d'ailleurs au début que c'est pas recommandé de parler d'un penpal à un autre penpal. Je pense pour pas donner l'impression qu'on mange à tous les râteliers, peut-être pour conserver un sentiment d'exclusivité, peut-être aussi émotionnel. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il les a pas détaillées, mais il m'a laissé entendre qu'il y en avait d'autres, mais avec une certaine pudeur.
Bon, Fabien, ça fait 25 ans hein, qu'il est dans ce couloir de la mort. Où est-ce qu'il en est, son cas? Quelles sont les prochaines échéances pour lui? Est-ce qu'il peut espérer un nouveau jugement?
Il y a une chose dont il ne veut surtout pas, c'est que sa peine soit commuée de peine de mort en prison à perpétuité sans libération, qui est une chose qui existe aux États-Unis, qui est assez fréquente même. Et ça, il dit, mais ça veut dire que je sortirai jamais de prison. Et ça veut dire surtout que matériellement, les conditions dans lesquelles je vais vivre seront nettement pires. Avec pas d'espace privatif, avec les 14 morts que j'évoquais tout à l'heure et les 13 suicides, c'est dans cette population-là qu'elles ont lieu. C'est dans cette population-là que le taux de violence est énorme et puis que ce sont désormais presque plus les détenus qui font la loi que les gardiens. C'est son cauchemar.
Ok, donc on a bien compris, pour l'instant, la possibilité de son exécution n'est pas encore à l'agenda. Hein.
Ah, pour l'instant, il n'est pas question d'exécution. L'énergie mentale qu'il déploie actuellement, elle est presque totalement concentrée sur les arguments que ses avocats vont développer lors de cette audience et sur l'efficience maximum qu'il voudrait que ses avocats aient lors de cette audience. Donc le reste, c'est un spectre, c'est lointain, je suis pas sûr qu'il ait envie d'en parler maintenant. Son énergie, elle est là, voilà. Par contre, ce qui était assez terrible, c'était de parler des exécutions qui venaient d'avoir lieu. Donc il dit, ouais, tel et tel, j'ai pas son nom en tête à l'instant, mais tel et tel vient de mourir. Et puis regarde le type à l'autre table, là-bas, que je connaissais pas, mais il me dit, lui, il est en mauvaise posture. Hein. Il veut lui donner une date maintenant. Donc voilà, il voit bien autour de lui des compagnons de lutte, c'est comme ça qu'il les appelle, qui sont menacés d'exécution.
Fabien, comment on se sent après une telle visite?
Ça va encore, je suis un peu les nerfs comme ça, un peu survolté, mais je sens que d'ici à une demi-heure, une heure, je pense que tout d'un coup je vais avoir un peu un breakdown. Je sens ça. Pour l'instant, je suis un peu comme une pile électrique. Il va y avoir un creux tout à l'heure, mais là ça va.
Bon Fabien, peut-être quand même une dernière question. Comment on se dit au revoir au terme d'un aussi long entretien avec Alonso?
Alors, la première chose, c'est que on était censé terminer à 16h. Il y avait quelques familles, quelques détenus qui étaient là. Puis à 15h30, le gardien est arrivé. Voilà, c'est fini, on y va. Du coup, le plan que Alonso avait prévu, parce qu'il voulait qu'au moment où je quitte, j'aille vite encore chercher un sandwich pour lui amener ce sandwich. Du coup, ça n'a pas pu se faire. Alors, il m'a vite poussé vers il m'a demandé d'aller à la machine dans laquelle il y avait des sortes de Smarties, des gommes, machin comme ça. Donc, je lui ai vite encore acheté ça en vitesse. On voyait aussi un peu la panique, hein, parce qu'ils doivent vraiment obéir aux injonctions des officiers. Donc on a eu vraiment 3 minutes pour acheter vite cette petite chose qu'il puisse ramener dans sa cellule. Et puis voilà, on s'est fait un hug. Il m'a serré dans ses bras quelques secondes. On s'est pris les mains et puis voilà, et puis il est parti. Parti vers sa porte à lui, direction prison. Et puis moi je suis allé vers la porte des visiteurs. On s'est regroupé les quelques visiteurs qui étaient encore là. Il y avait 5-6 personnes. En attendant de pouvoir ressortir, reprendre nos affaires et puis aller au parking.
C'était un hug pour Alonso, une rencontre proposée par Fabien Unenberger avec Fabien Unenberger, Yves Créta et Antoine Drou pour la voix d'Alonso. Un reportage à retrouver évidemment sur notre site rtsreligion.ch.